Le but de mon module, le but de mon module, c'est de situer donc la personne humaine au travers des sciences contemporaines. Vous savez que les sciences contemporaines, comme les technologies, occupent une place extrêmement importante dans notre société. C'est une des composantes fondamentales, non seulement de manière théorique, mais aussi pratique, puisque toute notre société dépend en grande partie de la technologie et de l'image que les scientifiques ont de l'univers. Et donc il est très important de situer la personne, de voir ce que les sciences contemporaines disent de la personne humaine. Vous allez, et vous avez déjà vu ce que la philosophie en dit, ce que l'anthropologie biblique, la théologie en dit, mais les sciences contemporaines disent d'autres choses, et la question essentielle pour nous est de savoir si les choses que les sciences et les technologies disent de l'homme sont, oui ou non, cohérentes, consistantes ou par ailleurs peut-être inconsistantes, incohérentes, contradictoires avec ce que disent les sciences. Donc, y a-t-il, oui ou non, une contradiction entre ce que les sciences disent de la personne humaine et ce que peut-être la philosophie, la théologie chrétienne disent de cette même personne? Alors je voudrais commencer le module en citant une réflexion. Disons que j'aime citer pour montrer comment les scientifiques dans les années 60 voyaient l'homme. C'est une citation donc de Jacques Monod. Jacques Monod est un prix Nobel de biologie. Il a eu le prix Nobel avec François Jacob et Lvov pour la découverte de la régulation des gènes. Donc c'est un personnage extrêmement important pour l'histoire de la biologie. C'est lui qui découvre vraiment les mécanismes qui expliquent pourquoi, même si nous avons les mêmes gènes, le même patrimoine génétique dans pratiquement toutes nos cellules, pourquoi ce patrimoine génétique ne s'exprime pas de la même façon dans toutes les cellules. Dans les cellules de peau, on fait de la peau. Dans les cellules de sang, on fait du sang. Mais pourquoi fait-on du sang ou de la peau alors que ces cellules ont tout le patrimoine génétique pour faire de la peau, du sang, des cellules nerveuses, etc. Bon, la réponse est parce que il y a dans le réseau des gènes des systèmes qui régulent l'expression, la traduction des gènes en protéines, etc. Eh bien, c'est Monod qui a découvert ça dans les années 60. Il a eu le prix Nobel. Et Monod disait ceci dans un livre qui est resté célèbre, Le hasard et la nécessité. Un livre qu'il a écrit, disons, après avoir fait ses découvertes. Il disait ceci: l'univers n'est pas gros de la vie. L'univers n'est pas gros de la vie. La biosphère est la biosphère de l'homme. Donc l'univers n'est pas gros de la vie et la biosphère de l'homme. L'homme sait enfin qu'il est seul dans un univers duquel il a émergé par hasard. Donc en gros, Monod disait, l'univers n'est pas gros de la vie, ça veut dire l'univers n'avait pas nécessairement la capacité de donner la vie. Ni la biosphère de l'homme, ni cette couche de vivant qui est à la surface de la Terre n'avait pas éventuellement la potentialité de donner l'homme. Et puis il ajoute un peu plus loin, l'homme sait désormais qu'il est seul dans un univers d'où il a émergé par hasard. Autrement dit, l'homme est une moisissure à la surface d'un astre de banlieue dans un univers dans lequel il se retrouve perdu, seul, comme une sorte de non-sens apparu par hasard. Donc Monod dit cela, hein, dans les années 60, dans une période marquée philosophiquement par ce qu'on a appelé l'existentialisme athée, cette période dans laquelle on insiste sur l'existence, mais sur l'absurde de l'existence. C'est la période de Camus, c'est la période de Sartre, Simone de Beauvoir, etc. C'est la période dans laquelle on est confronté à une sorte de fait brut de l'existence, et on subit l'existence tout en, d'une certaine manière, reconnaissant que ce phénomène est complètement bizarre, absurde, fruit du hasard. Bon. Alors, est-ce que donc c'est cette conception que Monod décrit dans le hasard et la nécessité, le hasard, l'homme est apparu par hasard, la nécessité, il y a des lois nécessaires qui s'expriment, donc il y a de l'ordre et il y a du chaos, et l'homme apparaît comme une bizarreté, quelque chose qui est apparu comme ça, par hasard, et qui est finalement sans beaucoup de sens. Bon. Alors cette expression, on pourrait dire, a marqué un certain nombre de générations de philosophes, de scientifiques, etc., et a semblé être liée avec la vision que donnaient les sciences. Et mon but serait de réfléchir à partir de là pour dire oui ou non, la science nous condamne-t-elle à regarder la vie et la personne humaine comme une sorte de non-sens, comme une sorte de phénomène qui serait, dans le fond, perdu dans un univers qui n'est pas fait pour elle. D'accord ? Alors, ça, c'est une idée qu'on a retrouvée tout au long, d'ailleurs, de l'histoire de la pensée. L'homme perdu dans un univers trop grand pour lui, qui l'écrase. Hein, on peut penser à différents, disons, philosophes, mais Pascal, qui s'effraie devant la grandeur de l'univers, mais pas pour diminuer l'homme, mais il y a l'idée aussi chez des très grands philosophes que l'homme est perdu dans un univers très grand et que, dans le fond, cette grandeur l'écrase. Bon. Alors, que faut-il penser de la vision de l'homme dans les sciences contemporaines? Est-ce que c'est vraiment celle-là que les sciences donnent? La science nous oblige-t-elle à croire que la vie et l'homme sont des non-sens et des épiphénomènes perdus dans un cosmos trop grand? Bon. Alors ça, c'est la question à laquelle je voudrais répondre, si vous voulez. Bon. Mais avant de le faire, parce que c'est important d'avoir une certaine méthodologie, parce que dans ce que j'ai dit ici, j'ai mêlé déjà la science, les philosophes, j'ai parlé un peu de ce que serait une vision théologique. Et donc, c'est important, avant de commencer une réflexion pareille, de distinguer méthodologiquement les différents ordres du savoir pour, après, comprendre ou se débrouiller dans la manière de mettre ensemble science et autre chose. Parce que j'ai dit, est-ce que la science nous donne une image de l'homme qui serait un non-sens, un épiphénomène, etc. Mais dans le fond, dire non-sens, c'est faire appel au sens, et c'est pas si sûr que la science donne un sens. C'est pas si sûr que la science utilise ce concept de sens. Hein, si vous regardez des manuels de science, vous n'allez pas trouver la question du sens. Donc on pourrait dire, ce que je viens de dire serait logiquement incohérent. Hein, parce que j'ai dit, est-ce que la science donne du sens à l'homme? Mais est-ce que la science véhicule le sens? Est-ce que la science s'occupe du sens? Vous voyez? Donc il faut, avant de commencer une réflexion comme ceci, même si c'est un peu embêtant, parce que toutes les questions de méthodologie sont toujours un peu embêtantes, si vous voulez, parce qu'on n'entre pas directement dans le sujet, mais c'est très important de bien distinguer comment on relie et comment on articule science, philosophie, théologie. Une fois qu'on aura ça, alors on peut regarder l'image que la science donne de la vie et de l'homme, et essayer de voir si oui ou non elle entre en conflit, en débat, ou au contraire, elle est en résonance avec ce que me donne une philosophie chrétienne ou une théologie. Bon, donc premier point, donc avant de répondre à la question suscitée par Monod, oui ou non, la vie est-elle un non-sens perdu dans un univers trop grand pour elle, je voudrais d'abord faire donc quelques distinctions méthodologiques. Et on pourrait dire, sous la forme d'un panorama très rapide, des relations entre science et théologie. Donc, modalité, ces distinctions nous seront données sous la forme d'un panorama exprimant les modalités des relations. Mais peut-être que là, vous ne voyez pas, ça c'est embêtant d'avoir un tableau qui n'est pas au centre de la... je ne sais pas comment je faire. Ouais. Mais si je fais comme ça, alors vous ne voyez plus. Et si je fais comme ça, alors eux ne voient plus. Donc, enfin, si quelqu'un ne voit pas, je répète, je peux répéter. Vous pouvez poser des questions, si vous pouvez dire je ne comprends pas ou je ne vois pas. D'accord, c'est autorisé. Voilà, donc je ne suis pas payé ici pour que vous... D'ailleurs, je ne suis pas payé, mais... je ne suis pas là pour que vous ne compreniez pas, donc vous pouvez toujours dire... protester. Modalité des relations, donc, entre science, et essentiellement ici, science de la nature, mais ça pourrait s'appliquer aux sciences sociales, sciences humaines, science et théologie. Sous-entendu théologie chrétienne, mais on pourrait l'appliquer à d'autres théologies aussi. C'est un schéma assez général. Alors, science n'est pas théologie, donc je ne peux pas directement passer de la science à la théologie. Vous voyez ? Oui, la science, la biologie, les molécules, immédiatement nous donnent un sens théologique ou philosophique. Non, pourquoi ? Parce que, comme vous avez vu, je pense, dans la session préparatoire, science et théologie n'ont pas le même objet, ni même le même but. On pourrait dire que la science est un ensemble de théories et de méthodes dont le but est d'expliquer et de maîtriser un certain nombre d'éléments de la réalité empirique, c'est-à-dire une réalité sur laquelle je peux expérimenter des choses que je peux observer à l'aide d'instruments, d'appareils, etc. Donc la science, c'est un ensemble de procédures et de théories qui visent à décrire et à expliquer des éléments de la réalité empirique, donc de la réalité sur laquelle je peux expérimenter et observer. Donc il n'y a pas de science, disons empirique, s'il n'y a pas possibilité direct ou indirect, d'observer ou d'expérimenter. Donc ce qui est par définition inobservable ou inexpérimentable, directement ou indirectement, ne fait pas l'objet, ne fait pas partie du champ des sciences empiriques.